Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aléria. Les événements d'Aléria. Prêtier Mondolone est le premier à m'en parler, puis Éric Faucon, suivi de Léo Battesti. Aléria, sur la côte orientale de l'île, a été fondée par les Romains. En 1975, j'avais 1 mois et 10 jours quand elle est devenue un aboutissement du Reacquisto et le début d'une lutte autant politique qu'armée, cette période trouble. Nous sommes sur la commune d'Aléria. Nous venons de rouler le long de 2 grands étangs. L'étang de Diane au nord et l'étang d'Urbione au sud. Des huîtres, des moules, des perches et des dorades y sont élevées. On trouve vraiment tout en Corse. Nous voilà chez les Venturini, dans une ancienne cave viticole. Stefano nous ouvre à la porte de l'établissement qu'a créé son père, Jean-Claude. Lui nous attend dans une cave entourée de précieux tonneaux.
Il y a tellement de clés, je ne sais plus ce que c'est.
À la découverte d'un trésor que l'on trouve sur la route, par estrade. Une road story qui s'écoute par l'alambic de l'histoire.
De bière. On peut commencer à pomper. Lucien, c'est bon, hein? Oui, Lucien. Ça vide? Tu remplis quoi, là, maintenant? La 10 000? Ok.
La bière est pompée d'un camion jusqu'à un alambic magnifique. Tout de cuivre, percé de petits hublots qui permettent de voir le breuvage se faire. Une odeur de houblon s'impose doucement.
Alors ici, on se trouve au centre de la Corse, au bord de mer, sur la commune d'Aléria, donc au domaine Maville, qui produit le whisky Corse PM.
Dans une cuve, ça sent la prune, dans une autre, la châtaigne, une autre, le cédra.
Alors on transforme essentiellement les fruits locaux, qui sont la myrte et le cédra, la châtaigne, la prune, le raisin, mais aussi on fait des alcools de fruits comme la framboise, la poire. On fait tout ce qui est spiritueux, c'est-à-dire eau de vie, liqueur de fruits et whisky. On a pris mon père pour un fou parce que c'était complètement démentiel de faire du whisky. Alors en Corse, mais même en France à l'époque, avec 2 distilleries qu'il faisait, on a été la première distillerie en Méditerranée.
Et un jour, on s'est dit avec Dominique Sialé, j'ai dit à Dominique, j'ai dit, tu sais, je pense qu'il y a un produit qu'on devrait faire ensemble. Et il me dit de tac au tac, il me dit oui, du whisky. Je lui ai dit, tu as pensé toi aussi? Il me dit, bien sûr que j'ai pensé.
Un whisky corse.
Nous, on a le brassin, toi tu as la distillerie. Et je dis, qu'est-ce qu'on... Allez, on s'amuse, on se fait 2-3 fûts pour tenter le truc. Il me dit, pourquoi pas. Et on a fait 3 fûts. Voilà. Et on l'a élevé tranquillement.
Ça va de la reconnaissance de sommelier ou de pâtissier ou de grand chef, et aussi la reconnaissance que nous a attribué Jim Murray, qui nous a classés parmi les meilleurs whisky depuis maintenant quelques années.
C'était en 2002. Parce qu'il faut savoir qu'il faut 3 ans pour avoir l'appellation whisky. En 2005, on a dit on va voir ce que ça donne. Et il se trouve que s'organise à ce moment-là à Paris le Whisky Live, à la Bourse. Et la réglementation, c'était chacun vient avec un fût. Chaque distillerie vient avec un fût. Mais les distilleries du monde entier, il y avait tous les plus grands, les Glenfiddich, Armand, tous y étaient là. Et donc nous, on était partis là-bas avec notre tonneau. Il faut savoir qu'on en avait 3 en tout. Pendant toute la journée, donc les dégustations, les trucs se sont faits. Puis bon, comme on est, nous, les Corses, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a 3 Corses ensemble ou 4, on commence à chanter, on commence à boire un verre. Résultat, le salon se vide et il n'y a pratiquement plus que nous. Tout le monde est en train de ranger. Et moi, je suis là-bas avec mon fils, Stéphane. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit arriver un aéropage de 5-6 personnes avec un personnage, avec un chapeau noir, avec une barbe, des monocles, enfin, un bon truc, et entouré par 4-5 personnes. Donc le type, le personnage goûte, a l'air d'apprécier, nous parle anglais, on comprend rien, bon, et ils s'en vont. Et à ce moment-là, on a tous les participants qui viennent se jeter, qui viennent, comment Jim Murray, il a goûté, Jim Murray. J'ai dit, mais qui c'est Jim Murray? Il dit, attendez, vous présentez, vous faites du whisky, vous savez pas qui est Jim Murray. J'ai dit, non, on fait du whisky. C'est une expérience, on a fait ça, on n'est pas des professionnels. Alors il m'a dit, bah, écoutez, c'est bien simple. Jim Murray, s'il a goûté votre whisky, il édite tous les ans une Bible, et s'il vous met plus de 50 sur 100, il dit, vous n'avez pas de souci à vous faire pour votre whisky. Au mois de décembre, moi je suis à Hong Kong, parce que j'adore voyager, et je reçois un coup de fil de Fanou, de mon fils, il me dit, tu es bien assis, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Murray nous a mis 92 sur 100.
92 sur 100. Les voilà parmi les meilleurs whiskies du monde.
Lâchez pas, Christian, hein.
Les Venturini ont mis toute la Corse dans leur whisky.
Il y a Greg qui arrive avec les tonneaux.
La preuve qu'un terroir n'est pas figé.
Alors là, il y a les fûts qui arrivent frais. Ça, c'est une spécificité, c'est-à-dire qu'on prend les fûts en vidange fraîche. C'est-à-dire qu'on récupère le fût le matin chez le vigneron. Là, ils sont montés à Patrimoine, les chercher. Et on va les vider, les re-remplir tout de suite pour garder le goût à l'intérieur. Ce sont des fûts qui nous viennent du domaine Jean-Paul Gentil à Patrimoine, qui ont été remplis de Nielouch, c'est un cépage de vin rouge corse, et qui vont être remplis maintenant de whisky. Déjà, pour fabriquer un whisky, il faut ce qu'on appelle un brassin ou un wash, c'est une bière non filtrée. D'accord ? Donc là, la spécificité du whisky PM, c'est bien sûr qu'il soit fait à partir de bière de la brasserie Pietre. Là, c'est un brassin qui a été développé exprès pour être transformé en whisky. Ce brassin, une fois qu'il arrive à la distillerie, on a pu le voir, on l'a pompé dans une première cuve. De cette cuve, il va venir à l'intérieur de l'alambic qui est derrière moi, donc il y a un Arnold Holstein. Donc on va remplir l'alambic. On va chauffer le brassin de façon à faire évaporer les vapeurs d'alcool. L'alcool va rester à l'état de vapeur tant qu'il est pur. Au contact du cuivre, s'il est impur, il va se reliquéifier. Et sinon, s'il est pur, il va rester alcool. Donc le but, c'est au maximum de faire un échange entre les vapeurs et le cuivre de façon à avoir le produit le plus pur possible et avoir le plus d'arômes. Donc en fait, c'est ce qui va se passer pendant toute la distillation qui va durer à peu près une dizaine d'heures.
Les Anglais ont toujours eu un faible pour la Corse. C'est historique. Jim Murray aussi y a succombé.
Alors là, il est venu cette année. Et donc, il a débarqué ici. Et c'est un personnage étonnant. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est, bon, déjà, de par le physique, l'apparence, le truc, il est complètement hors du monde. Hein, il nous a expliqué que pour faire ses dégustations, donc deux mois par an, il s'enfermait dans un cottage dans les bois là-bas en Angleterre, et pendant 2 mois il ne mangeait plus d'aliments, de viande, de fromage. Il se nourrissait simplement de plantes pour ne pas s'altérer le palais. Pendant 2 mois il faisait les dégustations. L'an dernier donc il nous avait mis 95 sur 100 sur un whisky, ce qui nous plaçait whisky hors norme.
Ouais, vous êtes 5e sur un de vos whisky, je crois. Vous
avez avec une note de 95 sur 100, ouais. Avec le pur malt, le 11 ans d'âge.
Avec des Irlandais, des Américains, des Japonais.
Avec tout le monde.
Il
La Corse est venue tardivement au whisky. Elle est restée à l'écart de l'Europe, comme pour la bière. Il n'y avait pas de bière pendant longtemps sur l'île. Or, il y a une relation étroite entre la bière et le whisky, puisque c'est à partir de la bière que l'on fait du whisky. Vous savez, j'aime cet engagement de la Corse. J'adore quand les gens qui goûtent s'exclament « Waouh !» C'est ça ma récompense.
Dans les années 60, sur le modèle de l'Algérie française, l'État avait favorisé certaines plantations. Il y a eu le succès des clémentines et l'échec des prunes. Le pruneau est resté d'Agen et les pruniers corses sont devenus abandonnés. Pas pour Jean-Claude Venturini.
L'histoire, c'est que moi, dans les années 90, j'étais sur le continent et j'avais envie de rentrer sur l'île. J'étais parti depuis une quinzaine d'années. Et lorsque je suis rentré sur l'île, j'ai cherché à savoir, à regarder un peu qu'est-ce qui pourrait se faire. J'avais envie de participer. Donc la première expérience, c'était de distiller de la prune, de faire l'eau de vie de prune. Et il se trouve que très rapidement, dans les 2-3 ans d'exploitation, on a été reconnu, c'est-à-dire qu'on a gagné la médaille d'or au Salon de l'Agriculture à Paris, médaille d'or nationale, hein, c'est-à-dire que c'était la première fois que l'Alsace, depuis des dizaines d'années, n'avait pas la médaille d'or. Donc ça nous a permis ça nous a donné l'idée de développer le marché des eaux de vie. Ça s'est fait, je dirais, normalement. On a dit, puisqu'on distille la prune, on va distiller pourquoi pas la châtaigne. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de monter la distillerie.
On a sur le domaine, on a une petite partie jardin botanique où on a planté quelques espèces, essentiellement, je dirais, des produits aromatiques. Alors par exemple, là, on a planté de la menthe bergamote, on a planté du fenouil. Voilà, c'est l'idée, c'est de toujours être au contact de la terre et de pouvoir créer des nouveaux produits. Je trouve magnifique ce champ. Quand il a bourré comme ça. Tu n'avais pas fait gaffe d'ici, tu vois là. Tu vois pas d'en haut, tu le vois. Tu vois le. Tu sais le truc de Gambigne. Comment ça s'appelle? Le vieux four.
Un truc là-bas.
Ah, Madine. Ouais, c'est la première fois que je vois, j'ai jamais fait gaffe. Tu vois pas dessus là-bas? Regarde là-haut là, la montagne, tu vois la montagne sortir. Tu vois pas? Il met des nuages, tu vois juste le mont. Tu vois pas? Alors la dernière tentative, c'était la liqueur de menthe bergamote. Voilà. C'est quelque chose qui n'existait pas et on a voulu. C'est un produit qui nous plaisait, donc on a voulu essayer de le transformer en alcool. Mais des idées, il y en a tous les jours. Je veux dire, ne serait-ce qu'en se promenant dans le maquis, on a envie de tout transformer. Le lieu, mon père a décidé de faire un petit peu le pied de nez à l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, ici, au départ, c'est ce qu'on appelait les caves des rapatriés d'Algérie. Donc c'était une cave qui a été construite pour faire du vin très peu cher, bas de gamme. Voilà. C'est ce qui s'est passé pendant de nombreuses décennies en Corse, jusqu'à l'époque du Riaquisht, où il y a eu une envie de personnes qui s'inscrivaient dans le développement économique de l'île et qui ont voulu transformer cette île par l'économie. Et à l'époque, c'était un lieu qui était complètement abandonné, dans un état de délabrement pas possible. Et déjà, mon père, sur ce côté-là, était novateur en se disant « on va ici faire quelque chose d'exceptionnel ». Et d'où cette idée de s'implanter dans cette ancienne cave.
Rébellion autonomiste en Corse. 50 agriculteurs armés de fusils de chasse occupent toujours à Aléria la cave viticole d'un pied noir, Henri Depeille. Le gouvernement a envoyé 13 escadrons de gendarmerie en renfort sur place.
Ce combat n'a pas pour vocation un quelconque séparatisme ou une atteinte aux institutions ou une dénaturation de notre lutte. Il n'y a pas d'esprit de provocation, il y a simplement la volonté affirmée à travers un problème sectoriel qui compromet 4 à 5 notabilités rapatriées, d'élargir la lutte pour la corsisation des emplois, la défense de l'identité culturelle, la charte de retour des exilés.
Dans 3 minutes maintenant, les délais seront terminés, ce qui veut dire que les gardes mobiles attaqueront peut-être cette cave vinicole si les membres de l'ARC qui sont toujours dans cette ferme ne décident pas de la quitter librement comme ils ont été invités par les gardes mobiles.
Fondateur de l'Action régionaliste Corse dans les années 60, Edmond Simeoni, avec son frère Max, rentrera ce 22 août 1975 dans l'histoire de l'île.
Les événements d'Aléry, ça a été tout ça. Ça a été le déclencheur, justement, de cette nouvelle vision de la Corse. À l'époque, s'il y a deux personnes qui incarnent cette période-là, ce sont les frères Simeone, Max et Edmond, qui avaient monté une petite association, hein, qui regroupait justement des gens qui étaient partis, qui étaient à l'extérieur, qui voulaient rentrer, des locaux qui se rendaient compte qu'en Corse, finalement, on pouvait y faire quelque chose, qu'on n'était pas obligé de s'exiler. Donc, il y a eu une réunion qui s'était tenue à Corté la veille, et là, sous un meeting, et là, les frères Simeone avaient annoncé justement une action d'occupation d'une cave viticole pour dénoncer vraiment ce problème de la chaptalisation. Malheureusement, la réponse de l'État, ça a été immédiatement la répression et l'envoi des forces inter, et la Corse s'est retrouvée quadrillée, de blindée, de... La Corse a été à feu et à sang pendant 48 heures. Oui.
Statu quo à Aléria, le bouclage du domaine occupé par les autonomistes de Corse est total.
L'occupation d'une cave viticole entraîne une réponse disproportionnée de l'État, suivie d'une fusillade de quelques minutes qui va bouleverser les décennies suivantes.
Corse, les forces de l'ordre donnent l'assaut à la cave vinicole occupée par 50 agriculteurs autonomistes. Des coups de feu répondent aux grenades lacrymogènes. Bilan, 2 gendarmes tués, 4 autres et un agriculteur blessé.
Conformément à ce qui a été décidé, je vais aller me constituer prisonnier.
Avant de suivre les policiers qui l'attendent derrière.
Nos hommes sont partis la tête haute, avec leurs armes.
Edmond Simeone répond à chaud aux journalistes présents.
La première chose, je pense, c'est qu'il faut s'incliner devant les victimes de part et d'autre. Elles sont les victimes inutiles d'une lutte injuste. Pour notre part, le combat politique commence. Et je pense que cette lutte aura l'avantage de cristalliser l'opinion publique sur des scandales que l'on a voulu étouffer.
Docteur Simeone, pour vous, c'est un succès ?
Vous savez, je pense qu'on n'apprécie jamais ce genre d'affaires quand il s'agit de la vie d'un homme, et surtout qu'on est médecin, en termes de succès ou d'échec. J'ai fait mon devoir, je vais continuer à le faire. Je n'ai pas l'intention de me dérober à mes responsabilités, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, un pas très grave dans l'escalade a été franchi, car nous avions parfaitement conscience, nous le savions, sauf si nous étions irresponsables, c'est que militairement, nous ne faisions pas le poids. Je pense que maintenant, en particulier au niveau des jeunes, il y a un processus d'escalade qui est engagé et qu'il ne faudra pas s'efforcer de continuer à traiter un problème politique et de revendication de dignité et d'identité comme un problème économique.
Ça a été l'élément déclencheur, je veux dire, de cette occupation massive, de cette dérive que prenait toute l'île. Et c'est suite à 1974 qui a commencé à éveiller les consciences. C'est-à-dire que les gens ont commencé à dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses bien? Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, s'accaparer cette plus-value qui se fait ailleurs, hein, je veux dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas se l'accaparer? Et à partir de là, il y a des gens qui se sont installés, mais dans tous les domaines. Dans la coutellerie, dans l'agroalimentaire, dans tous les domaines. Les groupes culturels ont joué une part essentielle, avec des groupes comme Cantao Boubou Ours, qui ont remis en avant tous nos chants traditionnels, bien entendu, avec toutes les questions de modernité. Hein. Et c'est ce qu'on a appelé le réacquist. Nous, on y a juste à apporter notre pierre au niveau de la fabrication des eaux de vie. Il faut dire que la Corse, après la guerre, elle s'est vidée. Toutes nos élites, tous les gens qui avaient un peu de projet, un peu d'ambition, étaient obligés de quitter l'île. On ne pouvait rien y faire. Donc j'ai fait mon enfance de 6 à 18 ans ici, en Corse. Et à 20 ans même, puisqu'en 20 ans, après l'armée, donc à 20 ans j'ai dû faire l'armée, bien sûr. Et après l'armée, j'ai décidé de quitter l'île pour essayer de gagner ma vie ailleurs, parce que bon, c'est vrai que c'était... Il n'y avait pas de fac, il n'y avait pas de boulot, il n'y avait rien. C'était une phase, je dirais, dramatique. Et c'est à partir de là, à partir de ce constat de misère et de trucs, qu'est née la volonté de créer, de se réapproprier, réacquis tout.
Ne pas se figer dans un terroir. Ne pas faire de la tradition un conservatisme, mais au contraire, une méthode pour innover, pour faire vivre sa propre culture.
On n'a pas basé la production du produit sur une stratégie commerciale. Ça a été un amour du produit, ça a été une envie de créer, une envie de fabriquer quelque chose de nouveau avec une typicité, un goût bien spécifique. Et très vite, autour de ce produit, on a été passionnés. Et de là, s'est fait le commerce. Mais la Corse a peut-être le plus grand panel de produits, la plus grande diversité de production au niveau agroalimentaire, puisqu'on peut aller de la pisciculture, on peut aller tout ce qui est portier agricole, transformation en vin ou spiritueux, la bière, la charcuterie, le fromage, le miel, on a une AOC sur le miel. Enfin, c'est aujourd'hui les huiles essentielles. Disons que la Corse est un territoire riche, très bien placé au centre de la Méditerranée, qui bénéficie de conditions climatiques optimum, sans aucune pollution, parce que nous n'avons pas d'industrie sur l'île, et c'est ce qui favorise ce développement, et aussi le fait, je pense, qu'en étant illien, on a envie de se développer, on a envie de créer, mais de créer bien.
Cette réappropriation d'une culture, issue elle-même d'un mélange de tant de cultures, élimine, je pense, la dangereuse notion de pureté.
La Corse, c'est une succession de domination et de libération. Hein. Depuis les Romains, on a été envahi par tout le monde. Hein. Je veux dire, que ce soit les Vikings, les Anglais, les Génois. Je veux dire, la Corse a toujours été envahie, elle a toujours été libérée. Il y a un brassage énorme qui s'est fait. C'est pour ça que moi, je suis stupéfait lorsqu'on peut, on dit que les Corses pourraient être racistes ou rejetées, alors qu'on est les plus grands bâtards de l'histoire. Non, mais on est le résultat d'un grand brassage.
Et d'ailleurs, vous, maintenant, vous faites des grands
d'ailleurs,
brassages.
D'ailleurs, on fait des grands
C'était un épisode de Paris Strada, un podcast réalisé par Philippe Pujol et Anne-Sophie Lebon et produit par le label Popcast.
Dans le prochain épisode, c'est en surplombant une mer de nuages à Babel que nous allons suivre une infirmière de l'Alta Rocque.